Bien chers amis, bon après-midi. Après cette pause qui restaure et qui rafraîchit, remettons-nous au travail. Et au début de cette deuxième cassette, si vous me le permettez, j'aimerais bien revivre avec vous cette ancienne tradition. Vous vous rappelez le temps où, à la fin de la messe, nous récitions cette prière à Saint-Michel-Archange. Je ne sais pas pourquoi elle est tombée dans nos habitudes, mais peu importe, nous allons, si vous le voulez bien, nous recueillir un moment et prier ensemble. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors, si vous vous rappelez, nous étions encore dans la première partie où je me suis posé avec vous une demi-douzaine de questions et nous étions tout près de terminer la cinquième. Et dans la cinquième question, j'expliquais que la clientèle favorite de Judoka le fourbe, ou si vous voulez, de Scapin le malin, c'est de s'adresser aux gens qui sont doués, qui sont intelligents, qui sont sincères, qui sont engagés, qui sont dévoués, qui veulent faire du bien. Parce que, étant très actif, il a beaucoup plus de chances d'entrer dans leur jeu et de s'insinuer dans leur plan pour les faire dévier. Alors que les gens qui se sentent vraiment pauvres, démunis, les petits et simples de cœur devant Dieu, admettant et reconnaissant leurs faiblesses et leurs limites, ouvrent moins leur jeu et s'en remettent davantage au Seigneur. Et ils n'ont pas peur de quémander, de tendre la main et d'ouvrir leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils sont souvent comblés avant et pendant des plus belles grâces privilégiées. Donc, chez les gens simples et petits, vraiment humbles, les dispositions et les désirs d'accueil du Seigneur étant davantage là, le malin a beaucoup plus de difficultés à les gonfler ou à les souffler d'orgueil, parce que cette personne, acceptant leur petitesse, cherche avec beaucoup plus d'enthousiasme leur Créateur, leur Sauveur et leur Sanctificateur. Alors que quand on est quelqu'un qui se croit fort, qui se croit fin, qui se croit beau, qui se croit bon, ben, on prend plus de temps à penser à cet accueil, à cet abandon. Et il y a beaucoup plus longtemps de son amour à soi, personnellement, en circulation dans ses propres veines. La conclusion de tout ça, c'est pas qu'il faut regretter d'être doué, engagé, sincère, intelligent, vif d'esprit, et qu'il ne faut pas non plus conclure que c'est mieux de bouder le savoir et de ralentir ses élans. Mais la conclusion, c'est qu'il faut demander plus que d'autres la petitesse spirituelle de l'enfant devant Dieu et apprendre avec sa grâce à laisser tomber sa tête dans son cœur, écrit avec un petit S et avec un grand S, son cœur à lui. Je pense enfin à la sixième et dernière question, ou considération si vous voulez, dans cette première partie, et je l'intitule la ruse des ruses, ou si vous voulez, le summum de sa fourberie. C'est un vrai paradoxe. Imaginez-vous que Judoka le fourbe, curieusement, mais délibérément, a conduit les uns parmi nous à ne plus le voir, jusqu'à croire et dire qu'il n'existe pas, et à l'extrême opposé, a conduit les autres à le voir partout. Et dans les deux cas, il tire avantage de nos deux excès. Quand notre aveuglement nous conduit à ne plus le voir ou à le sentir à l'œuvre, on cesse alors d'être vigilant. Et lui s'insinue beaucoup plus facilement. Et à l'extrême opposé, quand on commence à le voir et à le croire présent partout, on devient nerveux, excessivement peureux, obsédé, méfiant, tendu, blindé. Et la pratique des vraies vertus chrétiennes, l'accueil de Dieu, joie et paix, la charité fraternelle et communautaire en mange un coup. Et ce paradoxe des paradoxes, pour vous dire comment il pousse son effronterie jusqu'au bout, il le réserve alternativement et successivement, selon les différents moments de nos vies, aux mêmes personnes. Qui, à une étape de leur vie, ont douté de l'existence du malin. Après ça, ils le découvrent. Puis là, ils sont obsédés, puis ils le voient partout, même où il n'est pas. Puis après ça, ils ne savent plus quoi penser. Ils entrent dans une attitude confuse à son sujet. Et ils restent perplexes. Alors que lui, il se réjouit et tire parti tout autant du fait qu'on ne le perçoit plus que du fait qu'on l'imagine partout, chez tous, et qu'on le confonde avec nos propres défauts, ou les défauts des autres, les faiblesses humaines, ou les faux pas naturels. Alors soyons bien vigilants sur cette ruse des ruses. Il est partout, dans le sens qu'il est dans tout le monde. Il n'y a pas de secteur qui a reçu d'indultes pour en être exempté. Mais il n'est pas partout dans le sens qu'il faut le voir en toute chose, en toute personne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de nos erreurs humaines, de nos faiblesses, de nos lacunes qui sont dues tout simplement à notre mauvais caractère, à des situations qu'on accepte plus ou moins bien, à des blessures qu'on a eues, à des faiblesses de jugement, à nos défauts personnels et à ceux des autres qui ont créé des situations un peu compliquées, complexes, les conséquences des mauvaises décisions. En d'autres termes, le diable ne serait intervenu qu'une fois dans le monde avec Adam et Ève pour nous conduire au péché originel, pour ensuite disparaître à jamais, lui puis ses complices. On continuerait à connaître dans le monde encore un tas de troubles, de conséquences en chaîne, de ce péché originel et des pécheurs que nous sommes. Donc, il ne serait plus là que ça continuerait à aller mal dans une certaine mesure. Mais il faut savoir, donc, dans le sens que, dans le premier sens, que tout ne doit pas lui être imputé. Nous sommes des blessés par le péché originel. Nous sommes des marqués par le péché originel. Bon. Mais dans, à l'autre extrémité, il faut penser qu'il n'a pas disparu après le péché originel. Lui et ses complices sont encore là. Et c'est pour ça que c'est pire. Parce qu'il travaille activement pour tout attiser, augmenter, provoquer, susciter, encourager, orchestrer le mal qui se répand de plus en plus. Alors, il y a les deux facteurs dont il faut tenir compte. J'aurais le goût de terminer par une blague en disant ceci. Je pense bien qu'on est d'accord que ça va doublement mal dans notre monde. Mais si ça va doublement mal, c'est que d'une part, le diable est à l'œuvre, je dis dirait en blaguant, d'autre part, c'est parce que nous autres, les humains, on n'est pas le diable. Dans ce sens-là que notre faiblesse, nos lacunes, parce qu'on n'est pas meilleur qu'on l'est, on n'est pas le diable, eh bien, ça favorise au diable d'agir beaucoup plus facilement et beaucoup plus résolument. Alors voilà, nous venons d'expédier la première partie, c'est-à-dire une bonne demi-douzaine de considérations. On a vu qu'il existait, on a vu qui il était, on a vu quel était son plan, comment il s'y prenait, qui est-ce qu'il visait surtout, et on vient de terminer par cette ruse des ruses. Bon. Passons maintenant à la deuxième partie. Et là, je vais essayer d'en prendre une demi-douzaine, ou plutôt, excusez, une douzaine, et même 13 à la douzaine, exemples concrets de ces insinuations qui ont toutes les apparences du bien et qui nous font tout à coup perdre de pied. Je vous le dis d'avance, attendons-nous à nous reconnaître nous-mêmes dans plusieurs de ces exemples et, soyons réalistes peut-être, à nous reconnaître les uns les autres, à en reconnaître d'autres parmi nos bons amis. Mais n'allons pas plus loin. Restons dans l'amour du Seigneur. Ne jugeons pas, ne faisons pas des applications pas ou peu charitables. Ne nous comparons pas. Soyons miséricordieux et pardonnants comme notre Père du ciel l'est. Alors, numéro un, j'appelle ça la fourberie du mérite et de la dignité. Vous savez comment dans la vie, et on nous l'a enseigné tambour battant, que tout doit se mériter dans la vie, qu'il faut se montrer digne de ceci ou de cela, de celui-ci ou de celle-là. On a été éduqués comme ça. Alors ça finit par entrer au fin fond de l'être. Quand tout à coup, on arrive dans le domaine spirituel, il n'y a donc qu'un pas à franchir pour croire qu'avec Dieu, c'est la même chose. Qu'il faut se rendre digne de lui, d'abord. Et que c'est en se rendant digne qu'on va pouvoir mériter ensuite son amour, ses grâces, ses faveurs, ses dons, son pardon. Or, c'est faux, absolument faux. Dieu est amour et se livre le premier à nous sans attendre notre dignité et nos mérites. C'est d'ailleurs sa venue et l'accueil que nous lui faisons en nous qui a les chances de nous rendre dignes et méritants. Et, on le dit en théologie, c'est comme ça que nos actes deviennent méritoires. C'est donc pas un prérequis notre dignité puis nos mérites par nous-mêmes, en nous-mêmes, avant que le Seigneur vienne. Alors, le malin trouve là sa première fleur de banane. Il entretient, il attise même cette tentation à vouloir m'améliorer moi-même par mes propres moyens. Et puis il revient à la charge, puis il fait douter de ma dignité. Tu sais bien que tu ne mérites pas ça, ne manques pas ça, tu n'es pas digne. Alors il génère facilement le scrupule, le doute, les inquiétudes. Et alors j'hésite à demander, j'hésite à croire que ça se pourrait que je reçoive des grandes grâces, des grandes faveurs. Et comme j'en doute, et comme je n'ouvre pas mon poste récepteur, ben, ça retarde, ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. La sanctification vient d'en haut, de haut en bas, de lui. Et elle ne se fabrique pas ici-bas sur Terre, par lui-même. Il nous faut établir non pas un comité d'organisation et de sanctification, mais un comité d'accueil et d'humilité. Puis, vous voyez, comment, quand il nous fait entrer dans un tunnel comme ça, là, ben, on voit de moins en moins clair. Parce que, voulant être digne et mérité avant d'accueillir le Seigneur ne venant pas, on est moins éclairé, moins fort, ben, on pose parfois des jugements contradictoires. En même temps qu'on raisonne comme on vient de le dire, on s'étonne et on se sent rejeté par le fait que lui, Seigneur, semble pas venir. Puis, presque vexé, parce qu'il semble combler des plus petits, des plus simples que moi, qui ont l'air moins méritoires puis moins dignes que moi. Vous voyez, Scapin le malin, là, il nous amène dans un cheminement où on ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce que l'amour infini de Dieu renverse au point de départ toutes nos notions de mérite, de dignité, d'équité. C'est lui qui donne gratuitement au beau, puis au moins beau, puis au fin, puis au moins fin, puis il donne son amour. Alors à chaque fois que je ne l'accueille pas gratuitement, eh bien, je me prive. Mon amour propre n'étant pas satisfait et vexé, ma fierté est blessée. Alors c'est une spirale, on n'en sort pas, c'est un de ces premiers tunnels cul-de-sac. Ça va? Bon, deuxième pleurbabalane. C'est la fourberie que j'appelle la fourberie de voir le Seigneur d'abord dans les grandes choses. Vous savez, beaucoup de gens très brillants, très savants, très doués, très capables, vont dire, et de très bonne foi, Dieu est trop important. Il ne faut pas ravaler sa dignité. Il ne faut surtout pas croire qu'un Dieu comme lui puisse s'intéresser à des petites choses, à des petites gens. J'ai trop de respect pour lui. Bien prêt à le reconnaître, je n'en doute pas, je sais qu'il est là, qu'il est grand Dieu, mais je vais le reconnaître dans les grands événements. D'accord? Il ne faut pas le voir partout. On est illuminé quand on voit le bon Dieu partout. Remarquez qu'un raisonnement comme ça, puis on l'entend, vous savez comme moi, ça a l'air bien sérieux, ça a l'air bien sensé, ça a l'air bien équilibré. Et là, encore une fois, c'est tout le contraire. Pourquoi? Ben, réfléchissons là-dessus. D'abord, ce n'est pas à moi de décider à sa place, à lui, où et comment il peut et doit et veut se manifester. Or, il ne faut pas être un docteur en théologie pour savoir que sa décision est prise depuis toujours. Il s'intéresse à tous, à tout, toujours et partout. L'histoire du monde et l'histoire de son peuple ne cessent de nous le confirmer. Et ce n'est pas un lapsus. Quand Jésus s'est exclamé, « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » S'il se révèle aux tout-petits, s'il révèle sa grandeur aux tout-petits, aux simples, ça doit être dans des choses simples et petites. En attendre que de grands événements pour voir Dieu, on manque le bateau. Parce que les grands événements sont de deux genres. Ou les grandes joies, bon, vous savez que le monde n'a pas à tous les carnavals, ou des grandes épreuves. Ce n'est pas le meilleur temps pour découvrir la paix, la joie, l'amour de Dieu quand on est stressé, en pleurs, paniqué. On risque de passer à côté. Et d'ailleurs, il est, vous savez, beaucoup plus difficile, sinon impossible souvent, de le retrouver dans les grandes choses, parce que plus la chose est grande, plus l'événement est grand, plus le miracle est grand, plus il y a des facettes discutées et discutables. Donc, de multiples occasions d'avoir des doutes, d'avoir des hésitations. Ça fait tellement extraordinaire qu'on n'est pas à l'aise. J'aurais le goût ici de citer ce que j'avais cité d'ailleurs dans l'homélie aux funérailles d'Isabelle Gauvin. Et je le reprends ici textuellement, ce que j'avais dit à ce moment-là. Isabelle Gauvin avait reçu de Dieu le plus extraordinaire don de foi qu'il m'a été donné de constater dans une âme chrétienne. Pour elle, croire à fond, c'était à la fois chose simple et profonde. Aussi déplorait-elle ce qu'elle appelait en souriant, et je cite entre guillemets, l'incroyable, incroyable, incroyance de certains croyants. En un rien de temps, elle le flairait chez son interlocuteur, qu'il soit évêque, prêtre, religieux, religieuse ou laïc. Elle éprouvait un profond chagrin spirituel devant ceux qui pourtant avaient reçu la lumière, mais se perdaient dans le labyrinthe de leurs analyses de bonne foi, mais poussées à l'excès. Pour Isabelle, la constante recherche des petits côtés des grandes choses risquait souvent d'enlever le goût ou la chance de voir et de jouir des grands côtés des choses simples de la vie où le Seigneur aime tellement plus à se manifester. À son avis, au lieu d'arriver à cette simplicité qui élève l'âme, rejoint le vrai fond des vérités divines et conduit à la contemplation, il s'enlise peu à peu dans une complexité qui finit par semer le doute en eux et autour d'eux. Mais c'est ça, vous savez, les gens qui se disent, moi je reconnaîtrai le Seigneur dans les grandes choses, quand arrivent les grandes choses, le malin les organise qui ne voient même pas le Seigneur là. Alors, il ne le voit pas dans les petites choses, il ne le voit pas dans les moyennes choses, puis il manque dans les grandes choses. Alors, vous voyez encore un beau raisonnement qui a l'air bien équilibré et qui est encore une pleure de banane de plus, qui nous fait perdre pied. J'aurais le goût ici, vous savez, de dire, en parenthèse, ces gens-là, souvent, pour expliquer qu'ils ne voient pas le Seigneur dans les petites choses, ils vont dire, ah, ben, c'est la loi du hasard. Mais c'est presque provocant d'entendre des gens qui croient au hasard. L'avez-vous déjà vu, le hasard, là? C'est un parfait inconnu, c'est un parfait ignorant. Puis on croit au hasard. Alors que Dieu, lui, s'est identifié, il a prouvé son existence, il a fait ses preuves, puis on hésite à y croire. Puis il nous a pourtant dit comment on pouvait le retrouver. Comment on peut l'identifier, le Seigneur à l'œuvre? Ben, un jour, je ferai un enseignement beaucoup plus élaboré là-dessus. Il y a trois façons de retrouver le Seigneur dans les faits, dans les paroles, dans les inspirations qu'on entend, dans les petits détails de la vie. Premièrement, on retrouve des attributs bien à lui dans ce que quelqu'un vient de dire, dans ce qu'il vient de se faire. On retrouve par exemple la gratuité, l'amour inconditionnel, une grande miséricorde, beaucoup de bonté, de clarté, de simplicité. Moi, je suis toujours frappé quand des gens transmettent là, dans nos réunions des inspirations de l'Esprit-Saint. C'est tellement simple, c'est tellement clair. C'est pas du tout embrouillé. Ça fait tellement contraste avec tous nos arguments qu'on échange souvent entre humains et entre théologiens. Si c'est trop simple, on n'y croit pas. Mais le Seigneur, il est resté simple, puis il est resté clair. Puis tout à coup, ça arrive comme une brise fraîche, comme un rayon de lumière qui s'éveille. C'est tout saisissant. Ben, c'est ça. Là, le Seigneur est. Deuxièmement, on en constate les bons effets. Quand c'est lui qui vient de passer dans une personne, dans une parole, une inspiration, on éprouve de la paix, de la joie, de la détente. Et on sent vraiment qu'on vient de nous parler de la solution. On est comme satisfait. Alors que quand c'est le malin qui mêle de nous donner des conseils, tout ça, il y a un petit goût de surette, il y a un goût de cornichon, et quelque chose qui ne va pas, on ne connaît pas cette détente et cette paix. Et enfin, une manière de voir si le Seigneur qui est passé, c'est qu'on sent vraiment de l'inédit, on sent qu'il y a comme une motion spontanée dans la personne qui vient tout à coup nous dire quelque chose, qui vient nous témoigner quelque chose, qui vient nous faire part d'une lumière qui vient d'en haut. C'est spontané, c'est imprévisible, ça n'a aucun lien avec la conversation. Tout à coup, boum, un éclair de génie qui vient du ciel. Et on a comme une profonde certitude que c'est hors série. Et on est donc convaincu que ça ne vient pas du monde, mais plutôt hors du monde. Alors passons, si vous voulez, à une troisième fourberie, et ici j'invente le mot, l'expression, un certain savantisme spirituel. Je n'ai rien, ni vous sans doute, contre l'instruction et l'érudition. Vouloir être cultivé, éclairé, lettré, docte, c'est excellent, y compris dans le domaine spirituel. C'est même honnête et louable. C'est une bonne ambition. Mais ici encore, le malin a une multitude d'occasions